suite, nous allons rejoindre l'abbaye de Bock. Vous savez que ce matin, en ce dimanche 26 octobre 1969, c'était la dernière messe de Don Bernard à l'abbaye de Bock.
Bock, abbaye de gauchistes. Un documentaire de Yves Deloison et Anne Fleury. Première partie, en finir avec la clôture monastique.
Guy Jolivet assistait pour nous à cet office qui, je le pense, Guy Jolivet n'est pas encore complètement terminé.
Si, l'office est maintenant terminé, absolument terminé.
Interactualité.
Je voudrais vous préciser que ce matin, il pleuvait sur
octobre
la Bretagne,
1969.
Une espèce de pluie fine d'automne qui aurait pu freiner l'ardeur, la foi ou la curiosité des quelques 15 000 personnes qui, au long des chemins creux, ont rallié l'abbaye de Bock. Il n'est pas besoin, je pense, de revenir sur l'affaire. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a 10 jours, dont Bernard Béret, prieur de l'abbaye, a été destitué de ses fonctions par le supérieur des Citeaux à Rome, Don Kleiner. Il doit donc quitter l'abbaye dans 5 jours, le 31 octobre. Et aujourd'hui, c'était, comme vous l'avez dit également, sa dernière messe, et c'est pour y assister que cette énorme foule a envahi l'abbatiale, le cloître et tous les abords.
Il n'y a pas eu de manifestation particulière.
Il n'y a eu absolument aucune manifestation, ni pour, ni contre. À 11h précise, donc, précédé de Frère François, Don Bernard, le visage crispé et aussi gris que sa robe, passait dans le cloître et fendait à grand-peine la foule. Sous la voûte de bois de l'abbatiale, il eut grand-peine d'ailleurs à se frayer un passage jusqu'à l'autel, et l'office commençait alors simplifié, suivant, vous le savez, la coutume de Bock. Après l'évangile, Don Bernard se levait de son banc de bois et prononçait son homélie, au cours de laquelle il parlait de l'unité de l'Église et déclarait que le signe, je cite, n'est pas toujours à la hauteur de l'esprit et qu'il doit manifester et transmettre. Bien pharisien, dit-il, est celui qui s'en scandalise. Puis, parlant de la vie monastique et de ses valeurs, il continuait.
Loin donc de les bafouer ou de les nier, il s'agit de leur retrouver des formes concrètes d'expression dégagées de tout légalisme, de tout formalisme, de tout pharisaïsme, comme de tout anachronisme, pour leur rendre un impact efficace dans un monde qui, faute de véritables maîtres, court à la recherche d'ersatz parfois dangereux. La tradition monastique, loin d'être devenue caduque, me semble au contraire receler dans sa sagesse séculaire cette méthode de vie dont parlait Taillard de Chardin et dont notre société actuelle, sans toujours le savoir, a absolument besoin.
Août 1969, la nouvelle de la révocation de Don Bernard Béret, prieur de l'abbaye cistercienne de Bock dans les Côtes d'Armor, vient de tomber. À Plénéjugon, l'émotion est palpable. La réputation sulfureuse du moine dépasse largement les frontières bretonnes. Des médias nationaux évoquent sa destitution.
Oui, il a été probablement trop moderne pour beaucoup de gens. Il a été un peu vite, ce qui arrivera probablement d'ici quelques années. Il l'a dit peut-être un peu trop vite, alors dans le clergé, on ne veut pas évoluer aussi vite. Alors je suppose que c'est probablement pour ça, mais alors c'est une catastrophe pour la région.
Je regrette beaucoup son départ, moi.
Oui.
Parce qu'elle était dans le vent. Il y en avant justement des gens qui veulent la mettre à la porte.
Le Monde, 28 octobre 1969. Jamais sans doute, sous le petit crachin gris, le bourg de Plénéjugon n'aura connu une telle affluence. Sur le pas de leur porte, ses habitants ont assisté dimanche matin à un long défilé de voitures qui prenait l'allure d'un pèlerinage. Les Amis de Bock, qui organisaient cette manifestation de soutien au père Bernard Béret, prieur destitué de l'abbaye de Bock, ont vu un de leurs premiers vœux exaucé. Le rassemblement suscité comptait près de 5000 personnes.
Monsieur le maire, alors, qu'est-ce que vous pensez du père Bernard ?
Écoutez, le père Bernard est un garçon que j'estime énormément, que j'aime beaucoup. Mais je peux vous dire également qu'il a la sympathie, l'estime, l'affection de toute la population de Plénéjugon. Et il est évident que cette sanction qui vient subitement le frapper nous est fort pénible et nous attriste profondément.
Cette histoire commence bien avant la manifestation de soutien, dans les années 50, peut-être même deux décennies plus tôt, quand le père Alexis, prédécesseur de Bernard Béret, réouvre le monastère abandonné depuis la Révolution. Fondée au XIIe siècle, l'abbaye est édifiée au nord de la grande forêt du pays du Méné. Vestiges de l'époque médiévale, les bâtiments austères de granit et d'ardoise se devinent à l'approche du joli vallon où sillonne l'Arguenon. Nous avons retrouvé Bernard Béret, l'ancien prieur, né en 1935, se souvient.
Alors, c'est évidemment une histoire un peu compliquée parce que j'étais lycéen à Saint-Brieuc. Et je profitais de la bibliothèque de Saint-Brieuc qui était à l'entrée du lycée. Et un jour, j'ai été complètement attiré parce que les livres dans la bibliothèque municipale, c'était des livres gris en général. Et il y avait deux volumes orangés avec une couleur très vive. Et c'était des livres d'Aldous Huxley. J'ai lu ça avec beaucoup de plaisir et du coup, je suis devenu, entre guillemets, disciple d'Aldous Huxley et j'achetais tous les livres que je pouvais trouver de lui jusqu'à ce que je rencontre un livre qui s'appelle « La philosophie éternelle ». Et moi, qui étais un petit garçon de famille laïque, et à l'époque, laïque, ça signifiait tout à fait autre chose que ce que ça signifie aujourd'hui. Mais laïque, c'était quand même une définition essentielle qui était qu'on n'appartenait pas au clan catholique. Et donc, je lis la philosophie éternelle et je découvre la philosophie hindoue. Ça a été un événement majeur dans ma vie. Et en particulier, alors évidemment, Aldous Huxley citait de longs passages des Upanishads. Et il y a un texte qui raconte l'histoire d'un père et de son fils. Et le père explique à son fils « Tu es cela ». Donc c'est pas quelque chose de personnel, c'est quelque chose de neutre. Tu t'identifies au fondement ultime de l'univers. Et ça, ça m'a tellement marqué qu'encore aujourd'hui, ça reste la base de ma conviction. À cette époque-là, évidemment, c'était en 52-53, il n'était pas pensable de partir en Inde. Jamais mon père n'aurait eu l'argent pour me payer ce voyage en Inde. Donc j'ai cherché ce qui pourrait se rapprocher le plus possible d'un ashram hindouiste. Et c'est comme ça que j'ai découvert Bokka. Alors, quand je suis arrivé à Bokka la première fois, j'ai dû raconter ça au père Alexis, ça je me souviens pas parfaitement. Bokka, c'est lui qui l'a créé. Il avait eu un itinéraire déjà compliqué et qui, d'une certaine façon, a des similitudes avec ce qui m'est arrivé ensuite. Il avait le désir de recréer la vie monastique comme elle était du temps de Saint-Benoît. La règle de Saint-Benoît, un texte très intéressant parce que c'est un petit peu une forme d'humanisme mis en règle de vie. Parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas l'électricité. La plupart des gens allaient se coucher de très bonne heure. Et donc, ils pensaient que vers 2 heures du matin, quam digesti sum, parce qu'ils ont fini leur digestion, là, ils peuvent se lever. Et donc, on se levait à 2 heures. Heure solaire, évidemment, parce que il n'était pas question de suivre une heure allemande quelconque. C'était une vie extrêmement équilibrée d'une certaine façon, et dont le déséquilibre est venu de la personnalité du père Alexis. Parce que lui, il était né en 83, c'est en 1883, dans une campagne bretonne, et il n'avait aucune notion de l'hygiène moderne. Et comme je suis parti faire des études à Rome assez rapidement, une année je suis revenu de Rome en disant « mais ce serait bien quand même qu'on ait une douche dans l'abbaye ». Et il m'avait dit, moi, 72 ans, jamais une seule douche, et vous voyez, je me porte très bien. Il y avait 50 ans de différence entre lui et moi, ce qui faisait qu'il pouvait y avoir des conflits de génération.
Alors, il arrive, et c'est vrai que très vite...
Béatrice Lebel, historienne.
Dont Alexis voit très vite le potentiel de ce jeune, parce qu'il est extrêmement brillant, il a beaucoup de charisme aussi, enfin vraiment pas mal de points communs avec Don Alexis. Donc, il l'envoie à Rome, parfaire sa formation, son éducation. Alors, il ne parle pas hébreu ni rien, mais c'est pas grave, il l'apprend. Le grec, le latin, enfin voilà, donc il fait tout. Et il va passer une thèse de doctorat très brillamment. Et tout ça se passe à un moment où le Concile Vatican II va commencer. Et lui, il est là-bas, à Rome. Et donc, il devient l'assistant de l'abbé général, donc Kleiner, ce qui est pas rien pour un homme il a une vingtaine d'années, même pas. Enfin, c'est incroyable. Et on pourrait même penser à ce moment-là qu'il va faire carrière à Rome. Il aurait pu faire carrière à Rome. Mais voilà, il va être pris par Vatican II. Donc, il va travailler sur des textes avec d'autres archevêques. Il a là une production, je dirais même intellectuelle, importante, puisqu'il va vraiment s'investir dans ce concile.
J'étais présent aux trois premières sessions de Vatican II. Je me souviens encore du jour où le pape Jean XXIII a annoncé la tenue d'un concile. Ça se passait à Saint-Paul hors les murs. J'étais présent avec des collègues, amis, et on était très excités à l'idée d'éventuellement participer à quelque chose d'un renouveau. Et les trois premières sessions du Concile ont été vraiment formidables. C'était comme une révolution culturelle. Et malheureusement, alors moi, au bout de la troisième session, je suis revenu à Boquin pour en être prieur. Donc, je n'ai pas participé à la quatrième, mais la quatrième session était une vraie catastrophe. Parce que c'est le pape Paul VI qui avait pris les rênes de l'Église et qui a donné un tour de vis. Et donc, tout ce qu'il y a eu comme promesse dans le concile s'est trouvé mis de côté. Moi, je m'occupais surtout du renouveau de la vie religieuse, revenir au principe même d'une communauté de vie. Et les monastères, pour moi, devaient des communautés pilotes qui donnent l'exemple au reste de l'Église. Dans les premières années du Concile, il y a eu l'espérance de se dégager du Concile de Trente et de retrouver un visage humain de l'Église. Moi, à l'époque, j'imaginais par exemple la célébration à la télévision, non pas dans une église avec tout le cérémonial et tout ça, mais d'avoir quelqu'un à table, les participants de l'autre côté de l'écran, pour partager un repas. Ce qui est le sens ultime de l'Eucharistie, c'est le partage du pain et du vin, et la fraternité que ça suppose entre ceux qui participent.
Le père Alexis, c'est lui qui vous rappelle en 1964, je crois ?
Oui, parce que entre-temps, il avait fait un AVC. Il pouvait plus du tout diriger le monastère. Et donc, c'est lui qui m'a rappelé pour prendre sa succession.
Et Bernard Béret, qui aurait pu rester à Rome, se dit qu'au fond, le statut de cette abbaye, qui est petite, mais qui est rattachée directement à l'abbé général, c'est vraiment un lieu où, au fond, il y a beaucoup de choses à faire et on peut faire beaucoup de choses, notamment dans le cadre de ce Concile Vatican II qui vient de se terminer. Il est convaincu, mais vraiment convaincu de la nécessité de rénover. Bon, déjà, la messe a lieu en latin. Donc, bon, pour lui, il faut que ce soit dans la langue de l'assemblée qui est là. Et la liturgie, il va mettre beaucoup l'accent sur le vocabulaire, sur la parole. Il faut vraiment que les personnes qui viennent prier, qui viennent le fassent dans une atmosphère d'abord de fête, parce que pour lui, c'est une fête. Il ne dira pas encore, mais il le dira plus tard. L'Eucharistie, c'est même un peu comme l'apéritif. Et aussi, cette notion de désacralisation. Donc il y a quand même des approches assez nouvelles. Et il va très très tôt s'intégrer dans des groupes. des groupes de supérieurs d'autres abbayes qui vont tous se retrouver comme ça à tour de rôle. Donc on voyage un peu, on va dans telle abbaye, et ils vont travailler sur la liturgie, sur les chants, sur faire quelque chose de rénové.
Comment est-ce que les choses ont commencé ici ?
Eh bien, c'est en 1936 que le père Alexis, qui était alors abbé de Tamiers, est arrivé dans les ruines de Boquin, qui était une véritable forêt à cette époque-là, avec des arbres et des lierres qui poussaient partout.
Oui. Semblable à ces ruines-ci.
Oui, et surtout Bernard de ce côté-là, Béret, vous voyez ce chêne
Bretagne,
qui pousse sur les
actualité,
murs. Alors l'église était envahie comme cela. Et le père est venu s'installer dans les ruines avec surtout une visée spirituelle de rénovation de la vie monastique qui s'exprimait, se symbolisait en quelque sorte par la restauration des bâtiments.
Le père Alexis a quel âge maintenant ?
Eh bien, il va avoir 82 ans prochainement et il désire ardemment voir l'achèvement de son église. C'est pourquoi nous travaillons avec tant d'ardeur.
Oui.
Ça fait donc 13 ans, nous avons mis 13 ans à préparer les pierres et à mener le chantier.
Au moment où on pense que l'Église s'inscrit profondément dans le monde contemporain, on est tenté de se poser la question, à quoi bon ? Quelle est l'utilité précise d'une œuvre comme celle-ci ?
Oui, c'est une question qu'on nous pose fréquemment, parce que les gens ne comprennent pas, évidemment, ce n'est pas évident qu'il fallait reconstruire cette Église. Mais nous qui voyons l'afflux des fidèles le dimanche à la messe, surtout depuis que nous avons mis en œuvre le renouveau liturgique, et surtout, au cours de l'après-midi, tous ces pèlerins qui viennent dans cette solitude, on est toujours frappé de leur nombre. Nous nous rendons compte qu'il y avait un véritable besoin dans le diocèse et même dans toutes ces régions de la Bretagne, avec le littoral et les estivants, d'un centre de vie spirituelle intense. Il s'agit non seulement d'avoir l'église, mais d'avoir les possibilités d'accueil de nombreuses familles et de nombreux chrétiens et même d'incroyants qui désirent venir passer quelques jours de méditation et de prière avec nous.
Oui. Ce renouveau de la vie monastique dont vous parliez, il semble que vous ayez réussi à le réaliser déjà.
Eh bien, c'est encore très humble comme réalisation, mais là où il y a de l'amour, où il y a de la charité, je crois qu'il y a déjà de la vie et du renouveau dans le sens du concile.
L'idée, c'était de se rapprocher au maximum de l'Église primitive.
Bernard Béret.
Mais il se trouve que mai 68 est passé par là. Et on m'a demandé d'accueillir à l'abbaye un groupe d'étudiants de mai 68. Et comme j'étais aventureux, j'ai tout de suite dit d'accord qu'ils viennent. Mais ça a créé un problème épouvantable au diocèse de Saint-Brieuc, le diocèse où c'était surtout les bourgeois qui dominaient l'église. Pour eux, c'était l'horreur absolue que dans un monastère cistercien, ça devienne le lieu de mai 68.
Vous aviez conscience de ce que ça pouvait générer ?
Non, du tout. À l'époque, on m'avait baptisé le moine rouge, pas à cause de la couleur de mes cheveux, mais moi j'étais un peu innocent de la politique, donc je savais pas qui était Mao à l'époque, même si ensuite dans ma vie la Chine a pris une importance majeure, mais à l'époque j'étais pas du tout au courant de tout ça, donc on me disait le moine rouge, le moine maoïste, mais pour moi ça voulait rien dire. Je prétends pas avoir la paternité de tout ce qui se passait à Boquin. C'était un mouvement qui me dépassait de loin.
Il y avait quand même une dimension un peu politique d'une certaine manière dans...
Ah, nécessairement politique, oui. Parce que la religion, avant tout, est une affaire politique. Créer une communauté qui se distingue des autres communautés. Donc, ce qu'on faisait à Boquin, ça avait une portée politique indéniable. D'ailleurs, on était surveillés par les renseignements généraux et on était suivis très près.
Odile Durand, je suis plutôt très jeune, j'ai 86 ans. J'ai suivi cette longue histoire de Boquin assez passionnément, puisque j'en ai connu toute l'évolution. depuis les années 60, où le père Alexis drainait des groupes autour de lui pour reconstruire l'abbaye. Et donc, ma sœur aînée, des amis, partaient dans des camps scouts, lui donner un coup de main, fascinée par ce haut lieu spirituel et puis aussi par le cadre de la nature. Et pour des scouts, c'était superbe, la forêt de Bouquin. Voilà. Ensuite, j'y suis retournée comme lieu d'accueil, d'hôtellerie. Et là, déjà, j'ai pressenti que Bernard Béret allait ouvrir la clôture et accueillir plus ouvertement les laïcs dans l'abbaye. Et ça, c'était dès les années 65. Et progressivement, il a demandé qu'une association de laïcs se crée pour la gestion de l'abbaye et pour les temps de réflexion pour l'animation. Autour de l'abbaye, il y avait déjà d'autres mouvements qui aspiraient dans le sillon de Vatican II une profonde rénovation liturgique, quelque chose de plus vivant, une fois plus ancré par rapport à la vie qu'on vivait tous les jours, à la fois dans sa vie personnelle, sa vie de couple, sa vie de société. Donc il y avait déjà là une mouvance très forte qui s'est encore amplifiée avec mes 68. Et j'ai connu certains amis, effectivement, qui, à l'époque, avaient jeté les pavés à Paris, mais qui souhaitaient drainer, pas seulement un mouvement de contestation, mais un lieu de débat. Un lieu de débat, donc ça a correspondu à l'université d'été 68. Et progressivement, l'abbaye s'est de plus en plus ouverte par les articles de journaux, mais aussi par des mouvements, la vie nouvelle de Rennes qui commençait à s'intéresser, qui était un mouvement personnaliste communautaire avec Emmanuel Mounier comme fondateur. Donc il retrouvait là des racines du personnalisme communautaire, à la fois la dimension personnelle d'approfondissement, de ressourcement et la dimension d'engagement collectif. Et ce lieu, pour moi, a beaucoup parlé à travers la diversité des personnes qui venaient. Il y avait des engagements très divers. Donc, comme Bernard Béret le demandait, il demandait que les valeurs monachiques soient inscrites dans la société. Et donc, il privilégiait la sobriété, qui était un thème d'avant-garde, qui maintenant devient tout à fait d'actualité. Il privilégiait la vie communautaire avec la participation de tous, l'égalité devant tous et exclure personne. Et donc l'abbaye a accueilli, des prêtres mariés, des prêtres en recherche, des religieuses qui s'interrogeaient par rapport à leur vie monastique, qui voulaient une nouvelle, une créativité liturgique, quelque chose qui répondait plus à un élan vital.
Notamment avec un mouvement qui est ce qui s'appelle Échange et Dialogue. Ce sont des prêtres. Pour eux, un prêtre, c'est un homme comme les autres. Il doit vivre avec les autres hommes. Il doit pouvoir avoir une vie de famille, une vie syndicale, une vie professionnelle. Et il doit, dans la communauté, connaître la communauté. Et Bernard Béret va intégrer aussi toutes ces demandes-là dans la conférence du 20 août 1969. Donc, ça va être un peu le mai 68 des catholiques, enfin des chrétiens, puisqu'on a même des protestants. Voilà, c'est là que ça va vraiment se déclencher. Mais entre-temps, Bernard Béret va travailler sur la liturgie, mais aussi sur la notion de sacralité. Le mariage, c'est un sacrement. Donc, quand on est marié, il y a un sacrement. Mais le moine, il est un homme comme tous les autres.
Le 20 août, c'est la fête de Saint-Bernard. On avait une fête à cette occasion. Et en 69, j'ai tenu un discours dont j'avais vraiment pesé tous les mots, qui a mis le feu aux poudres. J'avais expliqué que être marié à Dieu, c'est être marié à personne. Et ça avait été l'axe de cette réflexion. Et À la sortie de cette conférence qui avait lieu dans l'abbatiale, un ami m'a dit « Bernard, tu ne te rends pas compte, mais en 30 mots, tu as fait 30 000 veuves, parce que du coup, toutes les bonnes sœurs pouvaient se sentir veuves.
C'était le 20 août 69.
Oui.
On a dit, il y a des gens qui ont dit que c'était la genèse un peu de, d'un mouvement de contestation, enfin que ça avait été perçu
oui,
comme ça.
Oui, oui.
Après cette conférence du 20 août, il va être convoqué à Rome.
Béatrice Lebel.
Et alors, on a une chance énorme, c'est que dans les archives, Bernard Béret a tenu un journal, mais pratiquement heure par heure. Et donc, il nous raconte comment il va jusqu'à Rome, comment il est reçu par Don Kleiner. Et au départ, il n'est pas vraiment question de destitution. Et quand Don Kleiner, le soir, fait un compte rendu, en quelque sorte, aux autres membres de la maison généraliste cistercienne, eh bien, il va avoir des pressions. On va l'obliger à destituer Bernard Béret. Il le lui annonce, et là, Bernard Béret, il n'y croit pas. Mais c'est un homme, alors ça, c'était une des forces de Bernard Béret, c'est qu'il est un grand communicant, très charismatique, et il sait utiliser ses réseaux. Et donc, à Rome, à ce moment-là, il y a un synode. Et se trouve notamment le mouvement Échange et Dialogue. Et donc, il va aller les voir, alors qu'il est encore à Rome, puis il dit, ben voilà, je suis destitué. Donc, en gros. Et donc, il va réussir à vraiment développer avec eux une stratégie, qu'est-ce qu'on fait après. Il va tellement bien la mettre en place qu'en fait, quand il va rentrer en France, il y a déjà une contestation qui s'est mise en place. La presse a été largement informée et il arrive là, à l'aéroport. Là, il y a déjà la presse qui est là. Il rentre pas discrètement comme on lui avait demandé de le faire. Et ça, Lord Cistercien ne l'a pas du tout anticipé. Prendre une décision aussi autoritaire concernant un homme qui, au contraire, justement, veut faire bouger les choses et qui, évidemment, est très apprécié, c'était vraiment la faute à ne pas faire.
C'était Boquin, abbaye de gauchistes. Première partie, en finir avec la clôture monastique. Avec Odile Durand, Bernard Béret et Béatrice Lebel, autrice de Boquin, entre utopie et révolution aux presses universitaires de Rennes.
Prise de son, Benjamin Reyes et Ludovic Auger. Mixage, Jean-Louis Deloncle.
Merci au mouvement Boquin Mémoire Vivante 70-90, documentalistina Manuela Dubessy, chargée de programme Sandrine Chaperon, coordination Emmanuel Laurentin, un documentaire de Yves Deloison réalisé par Anne Fleury. Retrouvez Une histoire particulière sur franceculture.fr. Le podcast est à écouter sur l'appli Radio France. La destitution par le Vatican de Bernard Béret, prieur de l'abbaye, ne signe pas la fin de l'aventure Boquin. Néanmoins, à force de rudoyer les dogmes, les membres de la communion vont se confronter à nombre d'épreuves. L'épiscopat parviendra-t-il à reprendre les rênes du monastère ? À suivre dans la seconde partie.